RLP.
C'est Maurice Méliès dans l'émission Mêliez-vous de ce qui vous regarde, mais surtout écoutez-moi. Chers amis, bonjour. Je ne vous dirai pas le temps parce qu'il tombe des grêlons aussi gros que mon poing. Et mon poing, il est gros, hein. Et ça fait mal. En arrivant au studio, là, j'en ai pris un sur la tête. J'ai une bosse, au point que je ne peux même pas mettre mon casque. Parce que ça me fait mal sur la bosse. Vous savez comment c'est fait un casque, hein. Ça a d'autres trucs là, qu'on vous met dans les oreilles. Mais au-dessus, il y a un truc qui supporte. Eh bien, je suis obligé de le mettre derrière parce que ma bosse me fait trop mal. Oh là là, sacré grêlon. Oh, l'enfoiré de grêlon. Oh merde alors. Bon, donc restez à la maison. Hein. Écoutez-moi quand même, mais restez à la maison. Hein. Bon. On va commencer par un ami. Bon, enfin, des amis, j'en ai. Hein. J'en ai rien que des poètes, j'en ai peut-être 25, 30. Hein. Donc des amis poètes qui vivent encore, certains sont déjà morts, mais ils sont toujours là, de par leur poésie. Hein. Ben oui, automatiquement. Enfin, un poète, c'est éternel. Comme un écrivain, vous allez me dire. Hein. Bon. Mais c'est pas comme un politique. Un politique n'est pas éternel. Hein. On peut toujours parler de lui. Hein. On a parlé de Gaulle, de Giscard d'Estaing, de Chirac, oui. Qui encore? De Pompidou. Même Pompidou, il a un centre culturel à lui. Et paraît-il qu'ils ont fait un centre Pompidou dans un autre pays. Vous vous rendez compte? Il ne pensait pas qu'il allait aller si loin, vivre encore longtemps, lui. Hein, pourtant. En attendant, je vais vous lire un poème de mon ami Bernard Chubillot. Alors, ça a été... Non, il ne met pas la date, lui. Non, bon. Ça s'appelle « Un jour sans pain ». La mémoire s'attarde en nostalgie. La mélancolie, comme un réflexe, ramène à l'enfance et à l'assiette fumante des dîners hivernaux. « Mange ta soupe, tu deviendras grand et fort bon, !» D'ailleurs, c'est ce qui m'est arrivé, hein. 1m85, 125 kilos, hein. Bon. Mais moi, je faisais que 85 kilos à 19 ans, quand même. Hein. Mais j'ai pris de la valeur, hein, depuis, hein. depuis 85 kilos à 125 kilos, vous vous rendez compte? C'est incroyable! La valeur que j'ai maintenant! Mais je suis invendable. Même si... la vente aux enchères. Hein, si je pouvais passer à la vente aux enchères, tu donc vous rendez compte, mes héritiers, ce qui toucherait? Oh, incroyable. Allez, je continue. Excuse-moi, Bernard Chubillot, d'avoir interrompu ton poème comme ça. Hein. Allez, quand le bouillon était trop clair, on rajoutait des tailles. Ces petites tranches de pain, dures, qui rendaient le plat plus copieux. Mange ta soupe, tu seras encore plus grand et plus fort, et toi aussi, le jour, tu auras gagné ton pain. Gagner son pain, gagner sa vie, aller gagner sa croûte pour pouvoir la casser, partager l'ami avec ses amis. Et il y a de l'honneur dans le travail, il y a comment un sentiment de religiosité ouvrière dans la fierté partagée d'aller chaque jour chercher son pain quotidien. On aurait pu mettre ça pour faire la Marseillaise, parce que ça avait la valeur de la Marseillaise. Hein. Ben oui. Ça se trouve, il ne s'est pas rendu compte qu'il avait écrit... Et la Marseillaise, bis, ouais. Et cherchait son pain quotidien comme un cadeau du ciel, pain béni, baptisé de quelques gouttes de sueur. Il faut rester fort et serrer le pain dans ses bras, comme on porte un enfant, comme on aime un copain, comme on serre un amour, pour ne rien perdre. Et dire que la faucheuse qui viendra un jour vous ôter le pain de la bouche, qu'elle n'est pas la bienvenue, d'amener l'âme d'un honnête homme n'est pas chose facile. Avant de nous faire passer le goût du pain, la sombre dame en aura sur la planche, restez fort et résistez. Après, il sera trop tard. La mort est longue, comme un jour sans pain. C'est pas beau, ça, hein? Moi, je vous dis, j'aurais pu remplacer la Marseillaise. Ouais. Faut que je lui dise, parce que, dans le coup, ben, je vais lui dire à Bernard, je dis, propose ça au président de la République. Oh non, il est trop con, le président de la République. Non, pas. Attendons le prochain. Encore, on ne sait pas encore ce qui sera le prochain. Peut-être que ça sera encore pire, hein? Oh là là. Alors il y en a, ils disent, normalement ça va être Mélenchon. Oui, mais on ne mélange pas les serviettes et les corchons, quand même, paraît-il. Hein? Mélenchon quoi? Qu'est-ce qu'on va mélanger? Hein? Oh, Je devrais pas dire ça parce que bon, je suis, j'ai pas à le cacher, moi. J'ai rien à cacher dans ma vie, moi. Même des fois, je me fous à poil pour pas me cacher, hein. Et vous verrez comme c'est beau. Oh, c'est superbe. Il y a des poils qui partent du bas jusqu'en haut. Ouais, jusqu'à la pointe des cheveux. Ouais, oh que c'est beau. C'est pour ça que je suis pas obligé de m'habiller, moi. Bah, regardez, vous prenez les gorilles. Je vais quand même pas mettre un t-shirt et un bermuda, un gorille quand même, non? Bon, hein. Alors, oui, je vais lui dire qu'il propose ça quand même. Ça vaut le coup, hein. Ouais, je vais lui dire. Tiens, j'appellerai après l'émission. Ouais, quand même, il faut bien... Hein. Bon, pour la peine, ben, je vais lire un de mes poèmes. C'est pas tout, mais... Alors, qu'est-ce que je vais vous jouer, là? Qu'est-ce que je vais vous jouer? Tiens, ce poème, oh, il est un petit peu long, mais bon, on a le temps, hein, on vient de commencer l'émission. Hein. Il a été fait en 2016, à 5 heures du matin. Ouais, 5 heures du matin, c'est bien. Hein. C'est l'heure où on est tout frais. On n'est pas obscurci par toutes les idées de la journée. On les a évacuées toute la nuit. Hein. Bon, des fois, d'ailleurs, il faut évacuer autre chose hein, la nuit. Hein. Faut pas tout garder pour soi. Hein. Bon. J'étais devenu la personne de persona, de personne, pardon, et du coup, mon nom était persona non grata. Alors, c'est du latin. Persona non grata, c'est souvent utilisé en diplomatie. C'est-à-dire quelqu'un qu'on ne veut plus qu'il soit dans le pays. Donc, qu'on lui demande de partir du pays. Par contre, persona grata, ça veut dire personne désirée. Et devenez bien, il y en a plein qui le savent, mais il y en a d'autres, il y en a encore plein qui ne le savent pas. Persona grata, c'était le nom de mon entreprise. Donc j'étais la personne désirée, donc les gens venaient à moi. J'ai jamais prospecté, rien qu'avec ce nom-là. Les gens ils disaient, c'était pas possible, c'est lui le meilleur. Et en effet, pendant 20 ans, sur la place de Périgueux, j'étais le meilleur. Hein. Enfin, le meilleur des moins bons. Ou alors le meilleur des nuls. Non, j'étais vraiment le meilleur. Le meilleur des meilleurs, voilà. Je ne savais toujours pas quelle attitude prendre pour mon futur péché mignon. Péter, rôter, jurer, pisser sur la tour et son Eiffel, vaincre ma peur de ne pouvoir faire la mayonnaise en mettant une crotte de nez dedans. Fallait-il se passer, en passer par là, pour me faire plaisir et emmerder mon entourage ? Plaisir malsain ou plaisir tout court ? Que de points d'interrogation pour de si innocents péchés. J'optais pour une main au cul de ma concierge, qui ne balayait jamais mon palier, pour cause encore inconnue, d'ailleurs. D'autant plus que le monsieur de l'étage au-dessus du mien, bien sûr, hein, celui que des fois j'entendais, il avait les talons aiguilles, le mec, j'entendais « dingue, 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 dingue ». Et moi, je répondais « t'es vraiment dingue !» Et il continuait. Alors, ce monsieur, hein, au-dessus du mien, avait les faveurs, sans en connaître la raison. Elle lui passait la brosse à reluire tous les matins et lui faisait des courbettes, comme au temps des califes. Un jour, en ayant marre de ce choix sélectif et idiot, selon moi, hein, je pris la décision de la provoquer. « Madame, la préposée à la beauté de cet escalier, auriez-vous l'amabilité de me dire enfin pourquoi vous ignorez mon palier ?» Elle se retourna vers ma voix, et avec l'air surprise en se tournant vers moi, dit « Mais, qui me parle ? Il n'y a personne ? Merde ! Je suis vraiment con, j'avais oublié que j'étais l'homme invisible. Oh, je n'arrivais toujours pas à me faire sans me défaire de cette nouvelle situation. » C'était lors de mon séjour dans le désert de Wadan, en Mauritanie, en cherchant des os de mammouth, poilus à dents jaunies par la nicotine, par un eunuque renvoyé dans ses foyers pour cause de repousse intempestive. Ils étaient souvent emportés des os hein, de l'au-delà, au-delà des mers, bien avant l'ère de ne pas y toucher, à cause d'un dieu tellement invisible que tout le monde y croyait, ou presque. C'était au temps où la fée du désert de Har Markoum m'avait jeté un sort au visage en me disant « C'est bien fait pour toi, na !» Elle devait être jeune hein, pour dire na. Hein. Ça devait être une gamine, à tous les coups. C'est là que je compris que j'avais eu affaire à une belle petite fée vraiment conne et bien mal polie parce que j'avais pissé sur un soi-disant fouet de queue. Alors, un fouet de queue, c'est les lézards du désert. Sur le coup, ma transparence me faisait, au début, malgré la surprise du moment, mais à la longue, cela était pesant quand même, hein, mais de ne plus être connu par le peuple, car ayant cette métamorphose, j'étais le facteur du quartier de la Muette, près de Passy, chez le Paris 16e. Ouais. J'étais nu comme un verre vide. Cela m'apaisait bien au début, cet incognito. Mais à la longue, j'en avais assez de ne plus pouvoir suivre la mode et mettre des strings dernier cri avec la ficelle devant. Plus de strings, plus de cravate à Mickey, plus de canotier. Ouais, Astérix. Référence à Alain Bernard qui était encore de ce monde à cette époque. Ouais, il était encore là, ouais. Plus de bonbons à mettre dans mes poches, même pas un stylo vert ou rouge et un carnet de notes. Bah ouais, c'était la panoplie d'Alain Bernard, puisqu'il était journaliste. Il fallait bien qu'il ait des papiers et un crayon pour écrire. Plus rien, sinon que ma nudité bien visible, par moi, et pour moi seulement, me gênait dans les soirées mondaines, où tout le monde était tiré à quatre épingles, sauf moi, qui n'avais même pu en mettre un au risque de me piquer le derme et le reste. Hein ? Oui, je parle des épingles, les quatre épingles, bien sûr, j'espère que vous avez compris. Non ? Edwige, je t'avais pas compris ? Mais, hey, pour mettre ton pareo, t'es bien obligé de mettre des épingles à linge, des aiguilles, des épingles. Ah non, tu mets pas ça, tu mets des bouts de scotch ? Ben, ça tient pas une fois que tu vas dans l'eau. Tu sais bien que le scotch, il résiste pas à l'eau. Bon, je t'enverrai quatre épingles. Tu sais, les épingles à linge, je te les enverrai, ouais. Bon, tu n'es pas prêt de les recevoir, il y a quand même 17 000 km, hein. Même si c'est en avion, hein, parce qu'il y a des, comment on appelle ça, des escales, oui. Des escales, oui. Bon, allez, je continue, hein. Tais-toi un petit peu, hein. Bon. Et alors, mes fesses n'ayant plus ce plaisir de se faire admirer par la gente féminine, ben oui, dans le coup, ben oui. Voir accepter une main au cul, d'une belle main baguée, ou encore une main de masseuse le long de mon échine débridée par tant de caresses, Terra peut-être. Voilà. C'est pas beau, ça, hein ? Alors, bon, de prix, j'ai pris mon origine. Hein. Je refais encore 125 kilos, 1m85, et puis mon nez rouge, bien sûr. Mais avant, on ne voyait pas tout ça. Ben non, on ne pouvait pas le voir. Bon, allez, pour la peine, on va jouer le poissonneur des lilas par les trois Jacques.
Le poissonneur des lilas.
C'est pas vrai.
Si.
Je suis le poissonneur des lilas, le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Y a pas de soleil sous la terre, drôle de croisière, pour tuer l'ennui, j'ai dans ma veste des extraits durs et leurs digestes. Et dans ce bouquin, y a écrit que les gars, c'est la coule douce à Miami. En dansant là, je fais le zouave au fond de la cave. Pareil qu'il y a pas de ce métier, moi je fais les trous dans les billets. Des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des trous de seconde classe, des trous de première classe. Je fais des trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des petits trous, des petits trous, des petits trous. Poissonneur des lilas,
pour un valise changé à l'opéra. Je vis au cœur de la planète, j'ai dans la tête un carnaval de confettis, j'amène juste dans mon lit.
Bien sous mon ciel de faïence, j'avoue à briller que les correspondances.
Parfois je rêve, je divague, je vois les vagues, et dans la brume au bout du quai, je vois un bateau qui vient me chercher. Pour me sortir de ce trou où je fais des trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Mais le bateau se taille, et je vois que je déraille, et je reste dans mon trou à faire des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous.
Je suis le poissonneur des lilas.
Ah, c'est métier direct par le loi. J'en ai ma claque de ce cloaque. Je voudrais jouer la fille de l'air, laisser ma casquette au vestiaire.
Un jour viendra, j'en suis sûr, où je pourrai m'évader dans la nature. Je partirai sur la grande route, coûte que coûte, et si pour moi il n'est plus temps, je partirai les pieds devant. Je fais des petits trous, encore des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Y'a de quoi devenir dingue, de quoi prendre un flingue, se faire un trou, un petit trou, un dernier petit trou. Un petit trou, un petit trou, un dernier petit trou, et on mettra dans un grand trou, et j'entendrai plus parler trop, plus jamais trop de petits trous, de petits trous, de petits trous.
Il y a pub contrôleur avec des petits trous, avec les pinces pour faire des petits trous dans le billet. Hein. D'ailleurs, je ne sais même plus ce qu'il y a parce que je n'ai pas pris le métro depuis au moins 30 ans. Je ne sais même pas comment c'est fait. Hein. Les chefs de station, d'ailleurs, je ne sais même pas si ça existe encore, parce que maintenant, ils mettent des caméras, ouais, partout. Hein. Et il y a une pièce, et quand il y a du bordel, il y a les CRS qui sortent. Hein. Alors, ils font soit sortir tous les mecs du métro, ou ils les font tous entrer. Ça dépend des conneries qu'ils ont faites. Bon. Alors là, Julos Bocarn, c'est le Belge dans toute sa splendeur. Mais là, c'est pas... C'est pas une critique, hein, c'est une vérité. Hein. Parce que les Belges sont pas plus cons que les Français. Hein. Et les Français sont pas plus cons que les Belges. Hein. Ben oui, c'est connu, ça. En plus, ils sont proches de nous, parce qu'il y a la moitié des Belges qui parlent le français. Et l'autre moitié, ce sont des Flamands. Alors, comme là-bas, il n'y a pas beaucoup de soleil, ce sont des Flamands roses. Vous voyez ? Ils ont des grandes pattes, ils ont des plumes partout. Oh, c'est incroyable. Bon, alors, il n'y a pas de titre, mais en aparté, je vais vous dire une chose, c'est que son poème a été écrit en 2001 au retour de Sarajevo. Et moi, j'étais à Sarajevo, je me souviens plus, dans 2011, ou quelque chose comme ça, ou 2010. Hein. Et comme j'ai lu ce poème que je vais vous lire, je m'y suis retrouvé, j'ai vu ce que Julos a vu, hein, à Sarajevo. Les collines sont picorées de croix et de selles blanches, colombes fragiles, signe que quelques-unes ou que quelqu'un fut, et je ne sais qui fut tué, ni par qui, ni pourquoi, ni pour qui. 99 mosquées dans la ville, peut-être plus, peut-être moins. Elles poussent comme des champignons, 99 mosquées, 99 minarets, parfois l'ombre noire d'un mezzouine, en chair et en os, au sommet d'un de ces crayons qui écrivent le ciel, sinon signe des temps, des haut-parleurs plasmodies, la prière machinale, tintement des cloches des diverses églises. Cimetières juifs, orthodoxes, musulmans, le cimetière grignote la ville. Dans les rues, les soldats de tous les pays en uniforme bigarré, le carnaval, quand on dit de tous les pays, c'est les soldats de l'ONU, hein, bien sûr. Le carnaval militaire des jeeps de la SFOR, voilà. De gros hélicoptères ronronnent au loin, un ton de fer qui transforme on ne sait qui, on ne sait quoi, on ne sait où. Partout des écriteaux, mines, signal des balises de la mort. Ces mines qui explosent imprévisibles et emportent des jambes, des enfants, comme un chat qui dormirait et donnerait soudain un coup de griffe dans un vacarme assourdi, les mines. Ces derniers appels de la haine aveugle, soubresaut de la vieille barbarie, de la vieille Europe, des trop anciens parapets, des mines. On estime qu'il en reste encore 1 million autour d'eux dans Sarajevo. Le soir, la rue piétonne est traversée par la jeunesse qui veut vivre. De beaux sourires qui marchent, des déesses transforment la mort, traversent la mort, pardon. Toutes les maisons sont des gruyères, elles sont pleines de trous de balles. On peut voir d'immenses buildings effondrés, sculptures involontaires qui hurlent dans le paysage la folie des hommes. Nous visitons l'ancien souterrain qui conduisait à l'aéroport et que visite incognito la fille aînée de Tito, étrangeté de la rencontre, regard furtif dans le rétroviseur. Mon ami Jovan Dizuljak, le général qui a défendu Sarajevo, fait le poirier sur la ligne de confrontation comme pour narguer le sort. 269 810 fantômes hurlent dans des paysages d'apocalypse. C'est ici que l'Orient et l'Occident se rencontrèrent, disent les livres d'histoire. C'est aussi ici qu'ils s'opposèrent de la plus violente façon. La guerre, est-ce la matérialisation de toutes ces pensées négatives que nous émettons à longueur de jour et de nuit ? Peut-être sommes-nous tous responsables de la guerre. Quand sortirons-nous du tunnel ? Voilà. Alors, oui, donc j'étais... oui, je crois que c'est en 2011. J'étais au congrès international d'Emmaüs, puisque j'ai été le président d'Emmaüs Dordogne à l'époque. Et donc, ça avait lieu à Sarajevo. Et même la façade où il y avait le congrès, donc c'était un grand bâtiment avec une grande salle, eh ben, était comment je pourrais dire, ciblée de plein de balles, au point que même il y avait des espèces de plaques en marbre ou faux marbre qui étaient tombées, et on voyait la façade toute fripée, toute dégueulasse, quoi. Et au loin, sur les collines, on voyait que des... Comme il disait Julos, des tombes, c'était des piquets blancs, hein, tout pareil. Il n'y avait pas une tombe plus différente de l'autre. Et il y en avait partout dans la ville, partout, partout. Et le pire, c'était à Srebrenica. Là, c'était des champs et des champs de tombes. Incroyable. Alors, j'ai des photos, mais bon, malheureusement, à la radio, hein, vous ne pourrez pas les voir. Bon. Mais vous doutez bien, bon, il y a eu des... Il y a eu des reportages, il y a eu des émissions là-dessus à la télé ou autre. Hein. Donc, vous devez vous douter ce que c'était comme malheur. Hein. Et tout ça, c'est tout ça pour rien. Hein. C'est comme ce qui se passe en Palestine, pareil. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Avec, une petite pointe au cœur quand même, parce que, bon, moi, j'ai jamais aimé la guerre. D'ailleurs, on est des milliards à ne pas aimer la guerre. Mais il y a quelques petits abrutis, parce qu'ils ont un pouvoir, et ils font la guerre, voilà. Ils s'en foutent, c'est pas eux qui sont tués. Bon, je vais encore vous reparler d'une concierge. Tiens. J'adore les concierges. Hein. Oh là là. Et vous savez pourquoi je les adore ? Parce qu'elles sont très bavardes. Et elles racontent ce qui se passe au premier étage, ce qui se passe au sixième étage. Alors maintenant, le sixième étage, c'est obligé d'avoir un ascenseur. Avant, non. Moi, j'habitais au sixième étage. Je peux vous dire qu'il n'y avait pas d'ascenseur hein, à Paris. Hein. Et même des fois, je faisais 7 étages parce qu'il fallait aller chercher le charbon au sous-sol, à la cave. Donc, d'un coup, ça faisait 7 étages. On descendait sans rien et on montait avec un seau de charbon. Hein. Et c'est lourd, un seau de charbon, je peux vous dire. Hein. Bon, enfin, passons. Alors, ça s'appelle le rythme singulier d'une concierge en RTT. Ouais, ça existe, hein, des concierges en RTT. Vous êtes prié d'essuyer vos scandales et vos rumeurs avant de vous mettre des excuses entre les genoux pendant la messe de midi. « Allez, debout !» pensait-elle en écoutant à la porte du premier venu. « Le café est tellement laid que la tartine de seigle, on avait ras-le-bol de ce beurre glacé d'horreur en sortant de ce cinéma d'armes et de décès. » Juste au-dessus, le rasoir restait éclectique et tenu par un fil assis juste à côté de la biscotte aux germes de blé d'Inde et qui se prend avec de la gelée, de maquereau et groseille. Plus haut, le slip en attente de testicules ouvragés, et le soutien sans ses gorges redevenues chaudes est déjà parti avec ses synthèses et ses casseroles. Et au dernier, avec cette vie mansardée, avec toi, sans lui, sans foi, au troisième, le bigoudi sur le front qui joue à boulet fermé, malgré la moisson de petits pois mal pesés que le souffleur de verbe écosse, malgré l'entracte, pas encore épluché. Vous avez déjà épluché une entracte ? Ouais, moi ça m'est arrivé, moi. Ouais, quand j'allais au spectacle. Bon. Au rez-de-chaussée, où la bosse à reluire les dents de devant, sauf celles qui bougent, à cause d'un caramel mou, juste avant l'after chaise, où le tabouret qui, malgré le cul, se sert d'après le coucher. Et Caline, la chatte, qui monte sur le clavier pour en changer avec ses pattes la finalité de cette prose mal commencée, sans regarder la souris d'un Mac allumé. Ouais, parce que moi, j'ai 3 Macs à la maison. Non, j'ai pas 3 fils, j'ai 3 Macs. Enfin, 3 ordinateurs. Et alors, des fois, ils me font « Apple, Apple !» Ils m'appellent, oui. Et cette douce si froide au deuxième, qui ne perd rien pour attendre, entre les mains à peine savonnées, La chemise blanche du sixième a midonné avec de l'amour et un fer à repasser par la porte de service avant d'aller chercher un bus en tôle froissée. Là, le concierge, le mari de la concierge, hein, endormi le long de sa mentalité, sans édredon, mais avec son tire-bouchon. Le rythme au ralenti du stagiaire fonctionnaire qui croit déjà à la retraite des laissés pour compte du mauvais côté de la pente savonnée. Le self-control alimentaire, mon cher Watson. La reprise après la déprise de la réprime du bureaucrate endimanché le mardi vers le zénith, bien avant la RTT, du film de fin de semaine. La star académique qui ne porte à gauche que les jours de vote du dimanche final. Le retour sur soi-même qui fait faire un pied de nez au patron qui, lui, ne pense qu'à aller se coucher avec la concierge, rester à l'attente dans l'escalier en remontant 4x4 comme s'il avait oublié de prendre son Viagra journalier. L'ascenseur qui démarque si l'on s'en resserre, un peu après le dessert, alors que le patron en était au hors-d'œuvre de la dame au balai. Alors là, j'ai une petite pensée pour la dame au balai. Parce que elle sert de hors-d'œuvre au patron. Quand même, c'est dégueulasse, ça, quand même. Hein, bon, faut pas exagérer, quand même. Hein, bon, le palier du 17e ciel, celui de l'avion qui se cherche pour avoir une attitude. Une attitude, hein, pas une altitude, hein, non, digne de lui malgré l'hôtesse qui prend l'eau avec l'air du bain, alors que la concierge est arrivée enfin au sous-sol pour y balayer la vie bien peignée de la coiffeuse du cinquième qui, grâce à sa marmaille, touche l'allocation braillette sans se refermer. Ah oui, si vous, elle veut toucher l'allocation braillette, tu ne peux pas la refermer. Hein. Ah oui. Sauf dans le liquage douillet où les bigoudis se défrisent de honte pour elle et pour son merlan de mari cocu. Oh. Alors si c'est un merlan, c'est un coiffeur. Hein. On va rester bien. C'est là peut-être lui qui doit lui mettre les bigoudis. Mais on ne sait toujours pas où il lui met les bigoudis. Eh oui, c'est ça qui est grave. Alors, puis arriva le marchand de virage mal négocié, qui se prit les pieds dans un tapis d'époque, percé que la concierge avait mal reposé au pied de la mentalité du commis d'office. L'ambulance des pompiers, qui s'avancera à pas feutrés, après en avoir été mal alarmée, fit demi-tour en voyant que le bal n'était même pas commencé. Le marchand revendiquait le fait d'en avoir été mal informé, alors que la pipelette se taisait afin de ne pas aggraver son QI, déjà bien malmené par une main charitable, qui croyait que ses neurones étaient en bas du dos, juste dans son milieu. En arrivant vers 20h03, le stagiaire qui ne pensait qu'à regarder sa télé brouillon, devenu enfin une réalité, tomba sur le marchand qui pourtant ne voulait rien lui vendre, sinon un jeu de clé à pipe qu'il avait déjà pipé à partir de la clé du 18. Et alors, la concierge avait mis une écriture, un panneau en bas, sur sa loge. La concierge est absente pour cause de ménopause précoce et abondante dans le bon sens. Voilà. Ah, c'est une anthologie là, que je viens de vous lire. Hein. Alors, après, vous me direz que les concierges font rien. Alors, il me reste 2 minutes pour parler de ma concierge. J'ai pas de concierge. Enfin, j'en ai plus. J'en ai eu des concierges. Hein. J'en ai eu. Mais bon, là, on a fait fort, hein, là, je peux vous dire. Hein. Vous vous rendez compte? J'ai tellement été bavard qu'on n'a passé qu'un seul morceau de musique. Et pourtant, je voulais vous passer Bobby Lapointe, la peinture à l'huile. Oh, ça dure 2035. C'est trop. Ah oui, c'est trop. Merde, on peut même pas la passer, la peinture à l'huile. Eh bien, on va passer à la peinture à l'eau. Voilà. Alors, peinture à l'eau, c'est parce que moi, j'amène toujours ma bouteille. Mais comme je parle beaucoup, il faut que je boive, naturellement. Et bon, à la radio, je ne vais pas vous m'amener mon litre de rouge. Alors, je prends de l'eau avec du citron pressé. Et là, par contre, je suis aussi pressé que lui parce qu'il va falloir que je parte. Eh oui. Alors, je vous dis au revoir. À bientôt. Et à l'année prochaine. Non, pas l'année prochaine, non, à la semaine prochaine.